Vous écoutez RTL. RTL.
Jusqu'à 22h,
la curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous, bonsoir Sidonie.
Bonsoir à tous, bonsoir Thomas et salut les curieux.
On est ensemble jusqu'à 22h sur RTL pour vous faire découvrir des histoires extraordinaires et des personnalités hors du commun. On attend vos appels, vos réactions au 3210. C'est sur le site rtl.fr, également sur Twitter avec le hashtag La Curiosité RTL.
Trois grandes questions ce soir. Comment un prince est-il tombé amoureux, attention, de tomates au point de les collectionner? Louis-Albert Dubreuil, le prince jardinier, nous expliquera tout à l'heure. C'est l'un des plus grands collectionneurs de tomates de France. Les soldats de la Wehrmacht qui ont occupé la France pendant la Seconde Guerre mondiale étaient-ils des monstres? On vous lira leurs lettres tout à l'heure et beaucoup de nos idées reçues, vous verrez, s'évanouiront.
Et puis pour commencer, cette image que l'on a tous en tête, le Costa Concordia échoué sur la côte italienne, puis sorti de l'eau grâce à une prouesse technologique et plus d'1 milliard d'euros. Cette histoire continue de nous passionner. Tiens, aujourd'hui encore, on a appris que la maîtresse du capitaine l'accuse d'avoir voulu fuir le navire en hélicoptère. Ces accidents sont-ils nombreux? Y a-t-il une malédiction des grands paquebots de croisière? On va répondre à ces questions tout de suite grâce à notre invité, l'écrivain et conférencière Rosine Lagier. Bonsoir.
Bonsoir.
Quand vous avez vu le Costa Concordia échoué, vous êtes dit quoi? Encore un?
Encore un, depuis longtemps, il n'y a pas eu quand même de naufrage aussi important que celui dont on a parlé, Titanic, bien sûr, dont on a fêté les 100 ans du naufrage en 2012. Il faut dire qu'à une époque, il y a eu beaucoup de naufrages. L'océan Atlantique était une autoroute, littéralement, pour partir de l'Europe jusqu'à l'Angleterre, jusqu'au rêve américain.
Oui, c'était ça le moteur de cette passion transatlantique,
quand
c'était l'immigration.
Quand on pense qu'il y a eu 40 millions de personnes pour partir à une époque où il n'existait pas encore de transport collectif de masse, comme maintenant, c'est étonnant. En 1860, pensez que 90 000 Irlandais pouvaient partir en Amérique, 2 millions d'Italiens, ça paraît inimaginable.
Parce que c'était la misère en Europe?
Parce qu'on fuyait la famine, on fuyait la guerre, on fuyait l'insécurité, on fuyait le chômage, on fuyait la pauvreté. Et il y avait au bout le rêve américain, la carotte, c'était des terres à défricher, l'installation possible aux États-Unis. Mais les gens partaient sans bien sûr connaître la langue à l'époque, avec très peu d'argent en poche. La plupart du temps, dans les premiers transatlantiques, rien n'était compris à bord, c'est-à-dire que les traversées pouvaient durer selon les vents jusqu'à 35 jours et les émigrants partaient avec toute la nourriture qu'il fallait pendant les 35 jours.
C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de bateaux sur l'Atlantique et c'est cette quantité finalement de paquebots, Rosine Lagier, qui provoquait les accidents, c'est-à-dire que ce n'étaient pas des paquebots assez... ils n'étaient pas prêts à naviguer, ils n'étaient pas au point.
Il y a eu plusieurs raisons au naufrage. Il y a eu bien sûr le manque de conception de certains bateaux. Jusqu'en 1909, d'ailleurs, où le Principe Yolanda, en 1907, a été lancé et a coulé aussitôt. Dès son lancement, il s'est enfoncé dans les eaux et pour lui, c'était terminé. D'autres bateaux, c'était bien naturellement les incendies. La navigation à vue. La vitesse.
La navigation à vue, c'est-à-dire c'est qu'on naviguait comme ça sans...
Il n'y avait pas de...
Ah oui, bien sûr.
Il n'y avait pas de technologie.
Il n'y avait pas d'instrument à bord. On naviguait à l'œil nu et avec des jumelles à l'occasion.
Rosine Lagier, on va pouvoir raconter les histoires de ces paquebots transatlantiques et malheureusement leur destin tragique. Mais forcément, on va prendre un peu de temps là tout de suite pour raconter celle du Titanic.
Le Titanic fait route vers l'ouest à 21 nœuds et demi. C'est une nuit sans lune et il fait froid.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
H-30 secondes. Un énorme iceberg surgit de l'obscurité.
Jusqu'à 22h.
2h30 après avoir percuté l'iceberg, le plus grand navire jamais construit s'abîme dans les flots.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On sait tous, Rosine Lagier, que le Titanic a sombré après avoir heurté un iceberg. Mais les ennuis commencent dès le premier jour. Qu'est-ce qui se passe dès le premier jour à bord?
Alors, il y a déjà eu un incendie qui a été caché, d'ailleurs, un incendie qui a pris dans l'une des soutes. Et on a déversé déjà beaucoup d'eau pour mouiller le charbon, pour étouffer les flammes et, les fumes, et la fumée. Et donc, Titanic a déjà pris la mer avec un souci à son bord. Et on a tout fait pour que les passagers, bien sûr, ignorent déjà ce premier problème à bord de Titanic.
Le capitaine aurait-il pu éviter le drame? On s'est évidemment posé la question tout au long des décennies qu'ont suivi l'accident. Il a été alerté, tiens, par exemple.
Oui, bien sûr. Bien sûr, il a été alerté. Tout le monde a été alerté. L'armateur en premier, qui était à bord du bateau, avec tous les passagers de marque. Il faut dire que ce bateau devait marquer les esprits à tout point de vue. Il était le plus beau que l'on avait conçu jusqu'à présent. Il y avait à bord salon de coiffure, le premier pour faire du squash, pour la gymnastique. Oui, tout à fait. Il y avait un grand jardin d'hiver vitré avec des plantes vertes, des oiseaux même.
Finalement, Rosine Lagier, ce paradis flottant, il va couler en combien de temps, le Titanic ?
Très vite, parce qu'en fait, l'iceberg qui l'a touché a déchiré sa coque sur une grande longueur, ce qui fait que l'eau a envahi tout de suite plusieurs caissons et il s'est enfoncé très rapidement. Mais jusqu'à la dernière minute, je veux dire, l'armateur et certaines personnes à bord n'ont pas voulu croire. Il était dit qu'il était tellement insubmersible qu'il c'était pas possible qu'il coule.
Le Titanic, c'est le plus connu des naufrages, mais nombreux sont les transatlantiques qui finiront au fond de l'océan. On vous raconte cette malédiction dans un instant sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Merci Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
On est curieux ce soir du destin des paquebots transatlantiques, ces géants des mers, symboles de technologie et de puissance qui ont souvent fini tragiquement. Rosine Lagier, vous êtes écrivain et conférencière, vous donnez des conférences notamment sur le Queen Mary 2. Mais moi je me demande, avec tout ce que vous savez sur ces paquebots, vous avez encore le courage d'y mettre le pied ?
Ah oui, pas de problème, c'est une passion que j'ai découvert. On peut dire qu'initialement, c'était pas vraiment les transatlantiques qui m'intéressaient, c'était justement en découvrant beaucoup de journaux d'époque dans les greniers familiaux, des journaux français, mais même étrangers. C'est en lisant ces journaux et en découvrant justement les naufrages, les centaines de paquebots qui prenaient l'océan Atlantique comme une autoroute pour aller jusqu'à en Amérique.
Ça faisait toujours la une de ces journaux, les naufrages.
Les journaux retraçaient en quatre lignes les naufrages. Il y avait eu un incendie à bord. Il y avait 60 rescapés sur 500.
C'est voilà. Le quotidien des paquebots, finalement,
voilà,
les
tout
naufrages.
À fait. Okay. La vie à la mort faisait partie du quotidien. On fuyait des mauvais jours pour trouver le rêve américain et les bons. Donc la mort n'avait pas d'importance en fait.
Alors ces paquebots, on l'a compris, ont souvent fini au fond de l'océan. C'est ce que vous racontez dans votre livre publié aux éditions Ouest France, Rosine Lagier, Tragique destin des paquebots transatlantiques, avec une très belle illustration en couverture. On va raconter maintenant l'histoire de l'un des fleurons de la marine française, le Normandie.
Le Normandie entame son dernier voyage vers les États-Unis le 23 août 1939 dans un climat international très tendu. Le 11 avril 1941, la prise de contrôle du paquebot est voté par le Congrès des États-Unis. Un détachement de Coast Guard embarque pour surveiller les actes de chaque membre d'équipage français pour éviter tout sabotage.
Qu'est-ce qui s'est passé ? La fin du Normandie, ça se passe comment ? C'est pendant la guerre ?
Normandie donc a été lancé en 1935. Très rapidement, la guerre éclate. 1939, il se trouve bien sûr à quai en Amérique, à New York. Et là, c'est ce que l'on appelle interné. Il est interné, c'est-à-dire qu'il est retenu à quai, qu'il ne peut plus repartir en France. Et donc, bien sûr, comme on vient de l'entendre, tout l'équipage reste à bord pour surveiller le bateau. bateau, en prendre soin. Et au printemps 1941, il est réquisitionné pour le transport de troupes américaines. Mmh. Et là, on le rebaptise Lafayette, ce qui n'est pas un bon signe. Hein. En principe, les
marins n'aiment pas qu'on change le bateau,
que l'on change le nom d'un bateau. Mmh. Donc, il est rebaptisé Lafayette. Et puis là, il y a un enchaînement d'ordres, contre-ordres, une désorganisation du personnel, des négligences qui s'accumulent. Et le 9 février 1942, c'est l'incendie. L'incendie qui se propage très vite. Et le 10 février, il est abandonné, couché, rempli de 6000 tonnes d'eau dans ses soutes. Il est renfloué en 1943, mais on s'aperçoit très vite qu'en fait, il faudrait mettre trop d'argent pour le réhabiliter, le remettre à flot. Donc, il partira à la ferraille en 1946.
Rosine Nagier, les incendies... C'est monnaie courante sur les bateaux, sur ces paquebots, ces transatlantiques?
Oui, l'incendie était vraiment l'accident que craignaient le plus les marins.
Pourquoi?
Pour la bonne raison, c'est qu'au départ, c'était bien sûr des chaufferies au charbon. Quand on est venu à l'électricité, donc avant, il y avait les lampes à huile, les lampes à pétrole, avec le roulis, le tangage. Bon, vous vous imaginez bien de l'ambiance qu'il pouvait y avoir à bord. Et après, l'électricité n'était pas suffisamment isolé comme maintenant, et donc avec l'humidité de la mer, le sel qui rongeait les structures, donc l'incendie était l'événement catastrophique le plus marquant.
Il y a un autre paquebot, c'est l'Austria, qui a été détruit en 1858. C'est quoi la cause de cet incendie?
Alors toujours, la cause de l'incendie est venue par les machines à charbon. Bon, il ne faut pas oublier qu'il y avait pour une traversée 500 tonnes de charbon dans les soutes. Et donc, on ouvrait les bouches béantes des chaudières pour charger en masse le charbon. Et donc, il y avait bien sûr des cendres qui tombaient sur le plancher où on y mettait quand même de l'eau. Mais l'incendie pouvait se propager rapidement. Et donc l'Austria, il y a eu 60 rescapés sur 500 personnes à bord. Et les 60 rescapés, c'est le personnel du bateau, c'est l'équipage. Tout simplement pour ne pas qu'il y ait une panique à bord. Eh bien, on a enfermé les passagers dans les ponts qui leur étaient réservés. Et l'équipage est parti avec les quelques pauvre chaloupe qu'il y avait à bord, puisque de toute façon, il n'y avait pas assez de chaloupe pour tout le monde. Mmh. Et en plus, on ne savait pas vraiment faire les manœuvres de sauvetage à ce moment-là. Donc l'équipage se sauvait déjà, et les passagers ensuite.
Et les passagers s'ils pouvaient.
On vous fait monter à bord de ces vaisseaux luxueux, mais attention, le voyage va peut-être mal se terminer à bord de ces paquebots transatlantiques. On en parle dans un instant sur RTL.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
On vous raconte l'histoire de ces paquebots qui ont sombré dans l'Atlantique. Ils sont nombreux. Rosine Lagier, c'est une malédiction ou il y a quand même des explications rationnelles à tout ça?
Les paquebots qui sombrent dans l'Atlantique, souvent il y a des raisons. C'est pas forcément la malédiction. Il peut y avoir, on a vu les incendies à bord, la navigation à vue, la course à la vitesse, la course au gigantisme. Il y avait une lutte qui se faisait pour construire le plus gros bateau, le plus rapide, la course à la vitesse, la course déjà à la vapeur. Parce qu'au départ,
oui, alors racontez-nous. Oui, au départ, c'est la vapeur.
Alors au départ, c'était des bateaux à voile, que l'on appelait d'ailleurs les bateaux à vent. Et ils mettaient de 30 à 45 jours de traversée selon les vents.
Mais il y avait combien de personnes à bord? Très peu de passagers.
Très peu de passagers pour certains, parce que les premiers paquebots, rien n'était prévu. C'était tout simplement le capitaine qui avait aménagé une pièce dans son bateau, dans son cargo, pour prendre des passagers. Ça arrondissait en fait ses fins de mois. Et puis, petit à petit, on s'est aperçu qu'il y avait de la demande, qu'il y avait de plus en plus de passagers en partance pour les États-Unis. Donc, à ce moment-là, on a commencé à fabriquer des bateaux qui pouvaient transporter 40, 50, 60 passagers à bord. Et on a commencé à créer le premier bateau à vapeur. Enfin, c'est l'anglais Brunel qui a créé le Great Western. On peut dire que c'est le premier paquebot en partant ce bateau
de ligne régulière, transatlantique. Et il met combien de temps à traverser l'Atlantique?
Alors il mettait 15 jours de traversée pour faire la traversée de l'Atlantique, ce qui était un net progrès quand même à l'époque.
Bien sûr. Rosine Lagier, vous parlez de cette course folle entre les nations pour avoir le plus grand paquebot. Qui gagne cette course au plus grand paquebot, au plus beau paquebot?
Alors il y en a eu plusieurs, puisqu'il y a eu la course au ruban bleu, ce qu'on a appelé la course au ruban bleu. Donc au départ, les bateaux faisaient vraiment la course entre eux, même les bateaux d'une même compagnie. Et il y a eu plusieurs...
Le ruban bleu, c'est celui qui va le plus vite qui l'obtient, c'est ça?
Alors la course au ruban bleu, c'est celui qui va le plus vite pour faire la traversée. Donc à ce moment-là, il a le droit d'attacher en haut de son mât un ruban bleu, ce qui en fait vraiment le roi de la traversée. Et c'est ce qui permet de gagner de la clientèle, parce que bien entendu, les personnes les plus riches veulent traverser l'Atlantique à bord du roi du ruban bleu à ce moment-là.
Comment sont traités les passagers de troisième classe, Rosine Lagier? Il y a de la place pour eux aussi?
Alors, il faut savoir qu'en fait, ce ne sont pas les passagers de première classe, les plus riches, qui faisaient le bénéfice de l'armateur. Non plus ceux de deuxième classe. C'était les passagers de troisième classe dans les entrepôts qui faisaient la richesse de la traversée, qui faisaient le bénéfice de la traversée.
Ils étaient stockés
littéralement 1300 à 1500 personnes dans l'entrepont qui se trouvait au ras des vagues. C'est-à-dire que quand la mer était mauvaise, on ne pouvait pas ouvrir les hublots. Vous vous imaginez 1500 personnes avec leurs victuailles entassées dans l'entrepont, des personnes malades, des enfants qui vomissaient. Vous vous imaginez un peu l'ambiance qu'il pouvait y avoir dans ces entrepont. La traversée en entrepont coûtait à l'époque l'équivalent de 2000 euros. Quand on sait que le salaire moyen à cette époque était l'équivalent de 80 euros.
C'est le voyage d'une vie, en fait, finalement.
Absolument. Et quelquefois, ils vendaient tout, et la famille vendait tout sur place pour payer la traversée à ces émigrants qui rêvaient d'une vie meilleure. Et alors il n'y avait pratiquement rien de prévu. Au départ, on ne fournissait pas la nourriture. Les émigrants devaient partir avec leur nourriture, partir avec leur couchage et partir avec les bagages qu'il leur fallait pour la vie aux États-Unis. Après, quand même, vers la fin du 19e siècle, il y a des règles qui se sont établies. Ils devaient avoir un repas consistant, petit déjeuner, tout était prévu. Mais les couchettes étaient des couchettes superposées, très étroites, et c'était très compliqué de vivre dans les entrepôts.
Oui, on le comprend bien grâce à vous, Rosine Lagier. Parfois, ça se terminait mal avec des morts à bord, avec des épidémies de choléra. On va continuer de vous raconter le destin tragique de ces transatlantiques. Et puis alors l'histoire incroyable d'un paquebot qui n'a connu, c'est le cas de le dire, que des galères. C'est le maudit parmi les maudits.
Vous écoutez RTL.
Je suis le maître du monde.
La curiosité est un vilain défaut.
J'ai fait le calcul dans ma tête. Et avec le nombre de canaux de sauvetage multiplié par la capacité que vous avez mentionnée, pardonnez-moi, mais il semble qu'il n'y ait pas assez de canaux pour tout le monde.
Il en manque la moitié.
RTL.
Jusqu'à 22h.
Dormez sur vos deux oreilles, jeune Rose. J'ai construit un bon paquebot, solide et fiable. Il est le seul canot de sauvetage qu'il vous faille.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Dormez sur vos deux oreilles. Bah, écoutez, ce qu'on apprend ce soir grâce à Rosine Lagier, qui est écrivain, vous publiez aux éditions Ouest France, Tragique destin des paquebots transatlantiques. D'ailleurs, parmi tous ces paquebots qui ont coulé, il y a le maudit des maudits. Comment s'appelle-t-il?
Le Great Eastern.
Pourquoi il
est maudit? En fait, peut-être que sa malédiction vient déjà au départ, puisque les armateurs et les administrateurs avaient décidé de l'appeler le Léviathan. Nom qu'il ne portera jamais, puisqu'il s'est appelé Great Eastern. On l'a lancé en 1851 et il a été construit pendant 7 ans, parce que ce bateau, on le voulait tellement gigantesque qu'il a ruiné tour à tour les différents armateurs, et donc il a déjà fallu 7 ans pour le construire.
Enfin, ce qui est plus long que la moyenne. 7 ans, c'est très long.
Ah oui, c'est très long. Ouais. Et enfin, arrive le grand jour du lancement. Donc, on prépare tout. Mais il a fallu tout un appareillage très spécialisé, des béliers hydrauliques, tellement le bateau était gigantesque et il s'enfonçait dans la boue, donc au bord de la Tamise. Et il a fallu acheter tout un matériel extraordinaire pour son lancement. Et le jour de son lancement, 100 000 personnes se pressent pour voir partir le géant des géants. Et là, au moment où il glisse dans l'eau, il casse, il rompt toutes les amarres, il casse toutes les chaînes, il envoie dans la foule les béliers hydrauliques, blessant, tuant énormément de personnes, si bien qu'on arrête là le lancement. Et il y aura plusieurs lancements avec déjà à chaque fois des catastrophes.
Alors déjà celui-là, donc il finit pas dans l'eau, c'est ça, si je comprends bien.
Alors celui-là, il ne finit pas tout de suite dans l'eau.
Donc ça, on ça rate
tenté,
déjà.
On a tenté en plusieurs fois, et en fait son véritable lancement s'est fait dans le plus grand secret, parce qu'il avait occasionné tellement de morts et de blessés aux différents lancements de ce bateau, que le véritable lancement s'est fait pratiquement de nuit, sans personne. Alors il a navigué, mais comme il avait ruiné tous ses armateurs, on décide quand même de le faire partir en mer, ce bateau, avec quelques passagers, parce que les autres passagers qui s'étaient inscrits pour la traversée...
Ils étaient punis, ces passagers, c'est pas possible, non ?
Les passagers qui s'étaient inscrits ont trouvé quand même le temps un peu long de départ.
Les
donc ils sont partis avec d'autres bateaux. Donc on a réuni quand même une dizaine de passagers. Le bateau est parti, mais il y a une grosse tempête en mer. Et comme le bateau était pas beaucoup meublé, donc les meubles ont commencé à traverser le grand salon, à blesser les passagers. Les miroirs se sont décrochés et ont blessé d'autres passagers. Et comme on voulait offrir...
Et un miroir qui se casse, c'est une malédiction supplémentaire. Ah ouais. Ça
et comme on voulait offrir de la viande fraîche pour la première fois à bord d'un bateau, donc on y avait fait rentrer des bœufs, des veaux, des moutons. Et en plus, les pauvres bêtes, bien sûr, se sont échappées de leur local. Et il y a même une vache qui a traversé le plafond du grand salon et qui est tombée sur des passagers.
Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas.
Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. C'était la débâcle la plus complète.
Alors, comment ça se passe à l'arrivée à New York ? Comment ça se passe ?
Le bateau est quand même arrivé à New York. Et là, autre malédiction, c'est que le bateau était tellement énorme, ses roues de chaque côté de la coque étaient gigantesques pour faire avancer ce géant.
Pardon, je vous interromps. C'était un bateau, donc, pour bien le visualiser, avec des roues à aubes, c'est ça ?
Voilà, chaque côté du bateau. Et comme l'équipage n'avait pas été formé pour rentrer à quai un tel géant, eh bien, il y avait eu, bien sûr, un attroupement sur les quais pour voir arriver le bateau. Et les roues à aubes ont littéralement labouré le quai, en envoyant à l'eau les quelques spectateurs qui étaient venus accueillir le Great Eastern. Donc, encore là, nouvelle malédiction en arrivant en Amérique.
Il y a eu des blessés à l'arrivée.
Il y a eu des blessés, il y a eu des noyés. Les passagers sont sortis comme des voleurs du bateau pour ne pas se faire lyncher. Et puis... au moment de repartir, on s'est aperçu qu'il y avait plus d'argent pour payer l'équipage et plus assez d'argent pour faire reprendre la mer au bateau.
Alors qu'est-ce qu'on fait pour récupérer de l'argent ?
L'équipage a tout simplement vendu le peu de contenu du bateau. Donc quand le bateau a pu repartir au bout d'un moment, il est reparti à vide parce qu'il n'y avait plus rien pour accueillir les passagers.
Il a fait d'autres voyages, ce Great Eastern ?
Il a fait encore quelques autres voyages, toujours avec aussi peu de personnes à bord. Et finalement, il a terminé comme cirque, comme plateforme pour de la publicité,
comme prison. Attendez, vous allez trop vite. Comme cirque, c'est-à-dire, c'était
plateforme,
quoi ?
Plateforme, et il servait d'estrade pour un cirque. Il a servi de prison, il a servi de plateforme publicitaire. Et après, il a eu quand même une fin un peu meilleure, puisque c'est lui qui a servi arrivé à la pose du câble transatlantique.
Ah, il a au moins fait une chose bien.
Voilà, il a fait une chose bien. Et quand il est parti à la démolition, là encore, il a créé un malaise parce qu'il a fallu tellement de monde pour faire expirer ce pauvre bateau que les gens aux alentours du chantier de démolition ont porté plainte tellement il y avait un tatamarre énorme. Et on s'est aperçu, les dernières tôles enlevées, qu'il y avait eu un ouvrier et son aide emmurés dans le bateau pendant la construction. Et tout le monde a dit, voilà peut-être le départ de sa malédiction.
Et ben voilà, magnifique histoire pour terminer. Merci beaucoup Rosine Lagier, votre livre Tragique destin des paquebots transatlantiques est publié chez Ouest France Éditions.
Vous écoutez RTL.